RFI Midi. La France à midi.
On entendait dans le journal le ministre français de l'Intérieur parler de son projet concernant l'immigration, projet de reconduite à la frontière. Bruno Retailleau a notamment évoqué les personnes en situation irrégulière à Mayotte qu'il envisage d'expulser de force et pas nécessairement dans leur pays d'origine. Nous recevons pour en parler Serge Slama. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit public à l'université de Grenoble IPES, membre du Centre de recherche juridique. Alors, Bruno Retailleau a parlé de vols groupés. Quand il a évoqué ce point-là, il répondait à une question d'une députée du Rassemblement national d'extrême droite. Des vols qui auraient lieu vers la République démocratique du Congo, mais pas forcément avec des ressortissants congolais à bord. Est-ce que c'est légal ?
Donc en fait, la France a passé avec le Congo un accord de réadmission, c'est-à-dire un accord qui permet de renvoyer vers le Congo soit des personnes de ce pays, des ressortissants de ce pays, soit éventuellement des ressortissants de pays tiers qui seraient passés par ce pays. Donc l'accord n'est pas nouveau, c'est un des pays qui accorde le plus facilement les laissez-passer consulaires depuis cet accord. Ça pose même d'énormes problèmes parce que à Mayotte, personnes qui viennent de l'Afrique des Grands Lacs, de la Corne de l'Afrique, sont très très souvent des demandeurs d'asile, voire vraiment des réfugiés. Et donc on peut se poser la question si leur demande d'asile a été examinée. Il y a un problème de centre de rétention, c'est-à-dire à Mayotte, il y a essentiellement des Comoriens qui arrivent, mais ils arrivent en Kwassa, ils arrivent en bateau, et ils sont souvent renvoyés dans la journée ou le lendemain. Donc la durée de rétention est très faible, sauf pour les populations originaires de l'Afrique des Grands Lacs, où là, les personnes restent plus longtemps en rétention, souvent pour des problèmes de laissez-passer consulaire.
Et donc, comment est-ce que ça pourrait se passer ? Est-ce que pour que ce projet du ministre français de l'Intérieur soit mis en place, il faudrait aussi des accords bilatéraux, en plus de la RDC, avec les pays dont sont originaires les ressortissants concernés ?
Alors, non, les accords de réadmission peuvent prévoir qu'ils reprennent des ressortissants de pays tiers s'ils sont passés par ce pays-là. Ça dépend du contenu de l'accord. On le fait très fréquemment en Europe, où très souvent, pouvait avoir la Hongrie qui passe des accords avec, par exemple, la Serbie ou d'autres pays limitrophes pour qu'ils reprennent les ressortissants de pays tiers passés par ces pays-là. C'est le principe des accords de réadmission. Donc, sur le principe, il n'y a pas de problème, mais il faudrait, alors d'une part, il faut avoir un certain nombre de garanties de respect des droits fondamentaux, et là, je pense qu'ils ne les ont pas forcément. Je ne suis pas sûr que les autorités congolaises sont en capacité d'apporter le fait qu'ils respectent le droit d'asile ou les droits fondamentaux de manière générale. Et plus largement, ce n'est pas tout à fait nouveau, en fait, l'accord, il a été passé il y a quelques années. Le rapport de la Cour de compte de janvier 2024 en faisait déjà référence en disant, justement comme exemple, que le Congo était un des pays qui délivrait le plus facilement les laissez-passer consulaires. Ça concerne très marginalement en réalité Mayotte, c'est-à-dire c'est quelques centaines ou milliers de personnes à Mayotte. Je vous dis, c'est vraiment des réfugiés, des demandeurs d'asile. Beaucoup obtiennent le statut à Mayotte. Et donc, peut-être que là, il y a une situation où il y a plusieurs ressortissants congolais qui peuvent être envoyés dans le cadre de ce qu'on appelle des charters. En fait, c'est l'aspect symbolique qui est important. Ici, Retailleau renoue avec une politique de Charles Pasqua, qui dans les années 90 avait organisé, notamment pour les 101 de Vincennes, les 101 maliens de Vincennes, comme on les appelait, des charters groupés, des vols groupés, comme on appelle ça aujourd'hui. Et ça a été dénoncé, hein, cette idée de renvoi collectif d'étrangers sans nécessairement d'examen de leur situation individuelle.
Vous nous avez parlé du centre de rétention de Mayotte. L'idée, c'est d'en créer un deuxième. Mais Bruno Retailleau a aussi parlé de l'allongement de la durée de rétention. Actuellement, c'est 90 jours. Il voudrait que ça soit prolongé jusqu'à 210 jours. Est-ce que ça, c'est possible légalement ?
Constitutionnellement, hein, plutôt. Alors, en réalité, ça existe déjà dans les cas terroristes, 210 jours, mais c'est précisément réservé aux cas terroristes. Au-delà de ce moment, on pourrait pas, ça serait contraire à la Constitution. Honnêtement, ça sert strictement à rien puisque il y a une très grosse perte d'efficacité de la rétention administrative passée 20 ou 30 jours. C'est-à-dire dans les 15-20 premiers jours, la plupart des étrangers sont renvoyés dans cette période-là, et au-delà, en fait, le taux de renvoi est très faible, et à 90 jours, il est quasiment nul. Donc en fait, même si on mettait 210 jours, ça ne changerait rien. À 210 jours, vous n'allez pas renvoyer plus de personnes. Et puis surtout, vous allez évincer, en fait. C'est-à-dire, le nombre de places en rétention étant limité, quelqu'un qui va rester 6 mois, il va prendre la place de quelqu'un qui pourrait rester juste 15 jours et être renvoyé beaucoup plus rapidement. Donc en fait, c'est une mauvaise stratégie pour augmenter pour le taux exécution. Ça change la nature de la rétention, donc c'est problématique. Et pour Mayotte, ça n'a absolument aucune efficacité. Le centre de rétention de Mayotte, de toute façon, n'a pas assez de capacité. Et la logique du centre de rétention de Mayotte, c'est renvoyer très, très rapidement des gens qui y passent, essentiellement, je l'ai dit, des Comoriens qui arrivent par Kwassa et qu'on renvoie dans la journée ou le lendemain. Donc en fait, cette stratégie ne sert à rien.
Toujours à propos des centres de rétention, Bruno Retailleau a parlé des personnes qui sont actives. Il ne veut plus d'association, mais uniquement l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Qu'est-ce que ça change et est-ce que ça, c'est possible de le faire rapidement ?
C'est strictement impossible légalement. D'une part, c'est la loi française qui prévoit depuis assez longtemps que les étrangers présents en rétention bénéficient d'une assistance notamment juridique, sociale et juridique et humanitaire. Une partie de cette assistance humanitaire est réalisée effectivement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, mais le Conseil d'État, qui a été saisi en 2009, a dit très clairement que l'assistance juridique devait être effectuée par des personnes morales indépendantes et compétentes. À l'époque, le ministère de l'Intérieur, Brice Hortefeux, avait essayé de faire entrer le collectif Respect, donc qui était un faux-nez du ministère de l'Immigration, au sein des centres de rétention pour affaiblir la défense des étrangers en rétention. Il y avait des recours qui avaient été faits. Le Conseil d'État a dit très clairement ça doit être des personnes morales indépendantes et compétentes. Et l'OFI, évidemment, étant un établissement public de l'État, n'a pas les garanties d'indépendance pour assurer cette mission d'assistance effective des étrangers en rétention.
Dernière question, il nous reste très peu de temps, mais je voudrais qu'on parle de l'état de droit, puisque Bruno Retailleau a laissé entendre qu'il n'était pas intangible ou sacré avant de se reprendre et de dire qu'on pouvait déplacer le curseur. Comment est-ce qu'il faut comprendre ces propos ?
Alors c'est vrai, l'état de droit n'est pas intangible, c'est un combat de tous les jours, et précisément Bruno Retailleau montre que le combat pour les droits de l'homme n'est pas fini, et pour l'état de droit. Alors c'est absolument absurde d'opposer démocratie et état de droit, puisque la démocratie est une composante de l'état de droit. Il ne peut pas y avoir d'état de droit sans démocratie, et l'état de droit est fondé sur la Constitution, c'est la Constitution qui définit les règles du jeu, et c'est forcément le peuple souverain qui adopte la Constitution. Donc il n'y a aucune opposition entre les deux, au contraire c'est consubstantiel. Donc quand on entend un ministre de l'Intérieur remettre en cause l'idée même qu'il faille respecter l'état de droit et de manière sous-jacente aurait été respecter la Constitution et les garanties qui vont avec, notamment la séparation des pouvoirs et l'autorité des décisions des juges, c'est extrêmement inquiétant. On est sur une pente glissante. Objectivement, c'est un discours d'extrême droite. Il n'y a plus aucune différence entre ce que dit Bruno Retailleau et ce que dit l'extrême droite.
Je vous remercie Serge Slama d'avoir été en ligne avec nous, professeur de droit public à l'Université de Grenoble, IPES et membre du Centre de recherche juridique.